Bonsoir, nous sommes avec Nicolas Boulard au centre Albert Chanot de Clamart dans son exposition Rule of Cool. Tu vas nous faire une visite de l'expo qui est en démontage, en commençant par la fin. Il y a du bruit qui nous entoure et par-dessus, nous allons parler.
Donc nous voici à... nous sommes devant la... La dernière sculpture de l'exposition, et quand j'ai préparé cette exposition, The Rule of Cool, je travaillais un peu sur deux projets, un projet de sculpture et un projet de performance, ou plutôt de mise en situation. La sculpture face à laquelle on se trouve, donc c'est la reconstitution d'un aéronef qui a été... inventé dans les ateliers Vermorel à Villefranche-sur-Saône, donc les ateliers Vermorel. Monsieur Vermorel était un empélographe, c'est-à-dire c'est un collectionneur de cépages de plants de vigne. Il est également aquarelliste, donc à la fin du 19e siècle, il avait réalisé tout un ensemble d'encyclopédies empélographiques, c'est-à-dire qui regroupait tous les types de toutes les variétés de raisins et de cépages qu'on pouvait trouver. En Europe, et c'est également un passionné de voitures, donc il avait fondé une entreprise de fabrication de voitures à Villefranche-sur-Saône, et puis ensuite il s'est intéressé à tout ce qui était matériel pour viticulture et vignerons, donc tout ce qui était charrues, toutes ces choses-là, mais également il y avait un atelier aussi pour le développement ou la recherche et le développement, ce qu'on pourrait appeler comme ça, et donc dans cette usine, ils ont imaginé cet avion, cet aéronef. Donc il y a une forme assez curieuse ou improbable, du moins pour le début du XXe siècle, puisque c'est un avion qui n'a pas des ailes rectangulaires, mais des ailes cylindriques ou tubulaires. Donc ça pourrait ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant des turbines, mais sauf qu'au début du XXe siècle, c'est une forme, ou une technologie qui n'existait pas encore. Donc moi, ce qui m'intéressait dans la reconstitution de cet aéronef, c'était un peu une manière de comprendre ou d'essayer de comprendre pourquoi ou comment on peut avoir une telle idée de faire un avion sans savoir si ça va fonctionner, mais quoi qu'il en soit, c'est une tentative, voilà. C'est une forme d'expérimentation échelle 1. Et ça m'intéressait de voir que ce type d'aéronef ait pu être développé dans le monde de la viticulture, par un fabricant de matériel viticole. Voilà, parce que bon, ça s'inscrit, les pièces que j'ai pu présenter ici s'inscrivent dans la continuité du travail que j'ai pu faire depuis 2002 sur la relation qui peut y exister entre le monde de l'art et le monde du vin. Et petit à petit, là, je suis en train un peu de développer des nouvelles formes et de nouvelles formes de travail ou de nouveaux axes de recherche. Donc, il y avait cet aéronef. Donc ça qui a été construit par dans l'usine Vermorel, puisque Vermorel également, c'était le fabricant en France à la fin du 19e siècle d'une autre invention un peu absurde ou obsolète qui était le canon anti-grêle. Et donc un canon anti-grêle, c'est une technique ou une technologie qui a été imaginée après la guerre de sécession par un général, puisqu'il avait constaté qu'après chaque bataille, chaque combat, il pleuvait. Donc lui, son constat, c'était que puisqu'il pleut, ça veut dire que ce sont les canons qui font pleuvoir. Donc partant de ça, il a commencé à imaginer des canons anti-grêle, donc des canons qui enverraient du son, donc c'est uniquement du son, ça n'envoie pas de projectiles, et des détonations, et que ces détonations perturberaient la polarité des nuages et transformeraient les glaçons en pluie. Et donc ce qui éviterait de détruire des récoltes, soit dans les productions de pommes ou de vignes. Et j'ai réalisé en 2012, au Vent des Forêts, j'ai refait ce canon, donc pareil, toujours dans la même démarche, pour voir est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça marche. Et donc moi, ça prend la forme d'une sculpture aujourd'hui qui est fonctionnelle, puisqu'on peut mettre en route ce canon qui est un tube, une sorte d'entonnoir qui fait 5 ou 6 mètres de haut, avec un dispositif d'air comprimé qui envoie des détonations toutes les 2 minutes.
Et l'environnement dans lequel c'était ?
Donc l'environnement au vent des forêts, c'était dans une très très grande clairière. Donc il y avait, je ne sais pas, ça devait faire peut-être 300 ou 400 hectares. Donc le canon était situé au centre, était placé au centre. Et donc aux alentours, c'était des champs, donc il y avait des champs de blé ou d'orge. Et ensuite, beaucoup plus loin, donc, il y avait des forêts. Donc ce qui était intéressant au vent des forêts, c'était qu'on est sur un circuit de parcours pédestre. Et ça, c'est une chose à laquelle je n'ai pas pensé, c'était la dimension sonore de cette pièce. C'était qu'au fur et à mesure où on se déplaçait sur les parcours pédestres, le canon provoquait un écho différent. Donc ça, c'était une chose... aussi, comment dire, une intervention sur le paysage, une approche sonore qui était quelque chose auquel je ne pensais pas, parce que c'est pas une des choses qui en a habituellement dans mon travail. Donc l'aéronef, ici, qui est pratiquement à échelle 1, donc c'est un avion qui n'a jamais volé. Et de l'aveu du pilote, donc c'est ce qui a pu être ce qu'on a retrouvé dans les archives de construction et des essais de vol, c'est que le pilote, tout ce qu'il souhaitait, tout ce qu'il espérait, c'est que ça ne décolle pas. Voilà, c'était une chose qui m'intéresse aussi, c'était vraiment de faire des pourvu que ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc en parallèle avec la construction de cet aéronef. Ça fait depuis 2004 ou 2005 que j'avais en tête un arrêté municipal qui a été voté en 1954 à la mairie de Châteauneuf-du-Pape. Et c'est un arrêté municipal qui interdit le survol et l'atterrissage des soucoupes volantes et tout objet volant sur le territoire de la commune. Et donc j'avais cette chose, cet arrêté qui se promenait dans ma tête. Je ne savais pas encore comment formellement l'utiliser ou l'exploiter pour en faire, pour produire un événement ou une œuvre. Et puis en discutant avec une amie, elle m'a parlé d'une école de parachutisme qui se trouvait près de Châteauneuf-du-Pape. Donc ce que j'ai fait au mois de... Donc en août dernier, je suis allé passer le brevet de parachutiste au-dessus de Châteauneuf-du-Pape. Donc voilà, ça c'était une autre entrée aussi avec tout ce qui était lié à l'aéronautique et l'aérospatiale. Et je ne pensais pas que... que j'arriverais à monter dans un avion et puis à sauter. Donc là, fin août, j'y suis allé, donc j'ai déjà fait quatre sauts. Donc ce sont des sauts qui se font à 4000 mètres. Donc il y a déjà une journée de formation. Donc c'est plus... Enfin, la journée de formation parachutisme, c'est avant tout qu'est-ce qu'il faut faire en cas de problème. Et puis ensuite, donc, il y a un premier saut qui se fait avec deux moniteurs. Donc on a chacun notre parachute, la porte s'ouvre, donc c'est un tout petit avion. Et puis donc on se retrouve face à la porte, dans un tout petit avion, à 4000 mètres d'altitude, avec un très beau paysage en dessous. Et puis, le moniteur nous explique bien, il dit surtout, regarde pas en bas, donc ça c'est une chose, et surtout ne regarde jamais la terre, et c'est une des règles en parachutisme, il faut pas regarder la terre. Et voilà, donc ensuite, ça c'était une expérience assez impressionnante, parce que c'était une expérience vraiment impressionnante le saut dans le vide, parce que déjà pendant 10 secondes il y a une sorte de blackout, c'est-à-dire que le cerveau il se protège vraiment d'une situation qui est complètement inhabituelle. Et après au bout de 10 secondes on se souvient un peu de l'endroit où on se trouve actuellement, et notamment parce qu'il y a deux moniteurs avec nous et qui nous rappellent qu'il y a un être humain qui est en train de tomber à 200 km/h en même temps que vous et qui essaie de vous faire comprendre qu'il faut... qu'il faut prendre une position adaptée à la chute libre, enfin au moins pour stabiliser la chute, puisque c'est ça, les formations chute libre, c'est ça, c'est un apprentissage de la stabilisation. Et la chute libre, ça dure 50 secondes à 200 km/h, et puis ensuite, donc il y a l'ouverture du parachute, et puis ensuite une petite balade, 2500 mètres, pour revenir à une vitesse un peu plus modérée de 15 km/h pour revenir sur Terre. Voilà. Et donc ça, dans l'exposition, il y avait une vidéo qui présentait les quatre sauts que j'ai pu faire.
Tu avais une combinaison spéciale ou c'était combinaison simple ?
C'est-à-dire combinaison spéciale.
Non, par rapport à l'arrêté, est-ce que tu...
Ah non, non, j'avais pas. Déjà, bah, on peut pas se permettre beaucoup de fantaisie avec la... dans la chute libre. Non, j'avais pas de combinaison particulière, mais c'était pas. Enfin, je voulais pas le faire de. C'était avant tout symbolique plus que formel. En fait, enfin, j'avais pas prévu de faire d'avoir de déguisement, de quelque chose de particulier pour ces sauts. Et puis voilà, la marge de créativité en chute libre est assez... Surtout au tout début. Un peu...
Après, peut-être que tu peux revenir sur ta manière de travailler en te servant, par exemple, d'arrêter ou de... C'est un petit peu dans ce que j'ai lu dans les textes qui sont écrits sur ton travail. Sur...
Ouais. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé... à partir des règles et des normes qui peuvent structurer une production, et notamment tout le travail que j'ai fait autour du monde du vin, c'était ça, c'est-à-dire que j'allais à l'encontre de règles ou de traditions, et puis en essayant de comprendre, tiens, pourquoi est-ce qu'on fait pas autrement, ou qu'est-ce qui se passe quand on fait pas les choses de manière normale ou de manière habituelle. Donc parfois ça produit des situations un peu particulières, mais très fréquemment, je pense notamment au premier travail que j'ai pu faire autour du vin, qui était pour mon diplôme en école d'art, où j'ai fait une vendange tardive de champagne, donc qui est quelque chose qui est législativement strictement interdit. Voilà, donc c'était lire les règles de production de l'appellation d'origine contrôlée de champagne, et puis faire le strict opposé. Donc j'ai fait des vendanges au mois de novembre avec des raisins pratiquement extrêmement pourris. Donc après avoir été pressé, j'ai rajouté 50% de sucre, donc un enrichissement artificiel du degré alcoolique. Et voilà. Et donc le constat, c'était que ça produit un vin qui est consommable et qui est agréable. En fait, il n'y a rien qui empêche de faire ce type de vin. Enfin, techniquement, c'est faisable, en fait. Et donc, c'est... Et puis après, au fil d'invitations dans différents lieux, j'ai pu expérimenter d'autres formes de travail, comme assembler tous les grands crus d'Alsace entre eux pour faire un vin encore meilleur, donc faire un grand cru de grand cru. Toujours en Alsace, planter Mouton Rothschild, donc qui est un grand cru de Bordeaux, et planter une copie de ce vignoble en région alsacienne, où tout le monde disait, mais c'est pas possible, biologiquement, la vigne de Bordeaux ne peut pas pousser en Alsace, et puis administrativement aussi, ça a demandé 2 ans de démarche pour avoir les autorisations de mettre en place ce projet, qui au final se révèle être un succès, puisque la végétation se plaît, peut pousser de manière tout à fait favorable, et voilà. Et donc, avec ces histoires de règles et de normes, c'est ce qu'on retrouve déjà dans l'aéronef, quoi. C'est que c'est un avion qui ne correspond pas du tout aux études ou aux normes de l'aérospatial. Et puis dans le cadre du saut en parachute, donc là c'était symboliquement aller à l'encontre d'un arrêté municipal qui est une forme d'interdiction. Je ne sais pas pourquoi la ville de Châteauneuf-du-Pape a interdit le survol de la commune par des objets volants non identifiés. Donc, les objets volants, donc j'avais cet arrêté municipal que j'avais lu sur une contre-étiquette d'une bouteille de vin qui est produite par un producteur en Californie qui s'appelle Randall Graham. Et donc, il fait une cuvée qui s'appelle le cigare volant. Auparavant, je ne m'intéressais pas plus que ça aux soucoupes volantes et un peu tous ces univers extraterrestres. Mais après, j'avais commencé un peu à regarder ce qui se passait dans ce milieu-là, et puis notamment les traces qu'on peut trouver sur Terre de présence extraterrestre, notamment les crop circles, donc les agroglyphes. Donc là, on est devant une série de dessins que j'ai réalisés à partir des traces laissées théoriquement par les extraterrestres sur la planète. Et, Et bon, c'est des choses qu'on a, enfin, que j'avais beaucoup vues dans les années 90. Il y a Led Zeppelin qui avait utilisé un des agroglyphes pour faire une pochette d'un album. Mais bon, j'ai commencé un peu à regarder ça de plus près, et puis en allant sur des sites d'ufologues, donc j'avais vu qu'il y avait quand même une collection impressionnante de dessins, et pas uniquement, on en trouve beaucoup en Grande-Bretagne, en Belgique, en France, en Allemagne, mais j'ai vraiment découvert qu'il y avait une production annuelle, une réalisation annuelle de dessins d'extraterrestres, mais qui était entre 2000 et 3000 par an. Et ça depuis les années 50, puisque là on a un des dessins qui est un dessin très très simple, puisque ce sont trois cercles sur papier. Donc ça c'est une des premières archives d'un dessin tracé en Finlande en 1947. Et puis en regardant comme ça un peu les dessins entre 47, après les années 50, 60, 70, on peut remarquer qu'il y a une évolution esthétique dans le dessin d'extraterrestres, enfin ou du moins dans les crop circles. Et après, suivant les époques, donc il y a une première génération donc qui est extrêmement plutôt, on va dire, minimaliste, avec uniquement un cercle tracé. Et puis ensuite, on est dans des formes un peu plus complexes, avec soit des assemblages de cercles. Et puis après, dans les années 90, là, on arrive dans des choses un peu plus, des formes type vortex ou des compositions algorithmiques un peu plus compliquées. Donc c'est une des premières choses qui m'avait frappé, mais il y avait aussi une autre chose, c'est que tous les ans, il y a entre 2000 et 3000 dessins qui sont réalisés, toujours de manière anonyme. Donc ça devient une forme de tradition, tous les ans, comme ça, il y a des dessins qui sont réalisés, et c'est quelque chose qui est très souvent resté anonyme. Alors parfois, il y a des personnes qui ont revendiqué, après 30 ou 40 ans, avoir réalisé tel ou tel dessin, mais dans l'ensemble, c'est toujours des dessins qui sont... Ça reste dans l'anonymat.
Est-ce que c'est un travail que tu relies aussi à un aspect de ton travail qui est une sorte de relecture ou de rejouer des œuvres d'art animal? C'est quelque chose que tu mets en connexion là ou pas du tout?
Il y a un rapprochement qui se passe à un moment donné, oui, parce que... Parce que ce qui m'a... Oui, on peut... Enfin, il y a un rapprochement qui se passe, notamment en faisant un peu un parallèle entre les premiers dessins, les premiers agroglyphes, et puis ce qui se passait à la même époque dans l'histoire de l'art avec l'abstractionnisme, le hard edge, voilà, c'est ça, avec Kenneth Noland, ou des œuvres d'art très minimales et très... très épuré, et puis effectivement les premiers dessins, les premières traces laissées, les premiers signes. Ensuite il y avait tout ce qu'il y a eu dans le land art également, avec le fait de tracer des choses dans le paysage. Sauf que dans les dessins, moi j'ai vraiment repris les formes, je les ai enlevées de leur contexte, c'est-à-dire qu'on voit plus le champ de blé, tous les paysages, les vues d'avion. Donc là ce sont vraiment des formes géométriques, et mises les unes à côté des autres. Alors toutes celles qui sont ici, elles ont toutes une origine géographique différente. Donc il y a Slovénie, Canada, Bulgarie, Hongrie, France, Belgique, donc Finlande, Suède, Norvège. Donc ça aussi, ça m'intéresse aussi d'observer ça, de voir qu'il y a des formes géométriques qui sont produites différemment suivant les zones géographiques.
Et le titre des pièces, c'est leur provenance ou
c'est... Le titre des pièces, ouais, c'est le lieu, la date, le lieu et la date de réalisation de chacun des dessins. C'est-à-dire qu'il y en a un, ce sera Itteville en Moselle en 1994, et un autre, ce sera Finlande en 1947, celui-là, c'est un des dessins qui a été le plus étudié par les ufologues, parce qu'il est assez énigmatique. Dans sa construction et de par ses dimensions aussi, puisque certains de ses dessins, parce qu'ils ont été réalisés dans la nature, faisaient entre 300 et 400 mètres de diamètre. Donc ouais, les titres sont le lieu et la date de réalisation des dessins. Alors, l'exposition. Donc là, c'est une photographie, donc extraite de la vidéo du saut des sauts en parachute. Et donc c'est juste au moment de l'ouverture du parachute. Donc la ville qu'on peut voir derrière, là, donc c'est la ville de Tavel, puisque donc là, on est dans la région de la vallée du Rhône, entre Tavel et Châteauneuf-du-Pape.
Il y a dans le texte que Anna qui m'a écrit, répéter ce que tu avais dit, que tu avais un boulot extraterrien. Alors, moi, est-ce que tu pourrais nous en parler? Et là, peut-être du mouvement ou alors de comment tu le vis par rapport à ces boulots qui se voient du ciel.
Extraterrien, ça c'est. Bah, le terme est venu quand on discutait avec Christophe Kim, qui est venu pendant l'exposition faire une conférence sur le musée de l'art extraterrestre. Donc le musée de l'art extraterrestre est une collection, c'est pas un lieu qui existe en soi, c'est plutôt une collection ou un ensemble de. Ça regroupe un ensemble de travaux, d'objets et d'œuvres qui ont été qui ont un trait avec l'extraterrestre. Alors par extraterrestre, c'est la notion d'extraterrestre, c'est dès l'instant où on dépasse une certaine altitude qui est de 40 ou 50 000 mètres. Donc en deçà de cette limite, on est plus dans l'extraterrien, c'est-à-dire qu'on est on n'est plus dans le terrien, on est un peu en suspension. Ce sujet de la suspension, ça fait déjà référence au titre de ma précédente exposition au FRAC Alsace qui s'intitulait La suspension d'incroyance. Et la suspension d'incroyance, c'est la position du spectateur lorsqu'il va au cinéma, au théâtre ou dans une exposition, c'est-à-dire qu'on peut admettre qu'une chose qui dans la réalité n'existe pas, au cinéma on peut l'admettre, comme par exemple un super-héros puisse voler ou quelqu'un puisse ressusciter. Donc ça c'est la suspension d'incroyance. Cette position de suspension, c'est quelque chose qui est resté... que j'avais en tête. Et donc quand je me suis retrouvé en parachutisme et que j'ai vu les premières images, le parachutisme c'est quelque chose aussi d'assez récent, c'est un sport assez récent qui était beaucoup plus développé dans les années 90, puisqu'auparavant c'était c'était utilisé avant tout par les militaires. Et donc ça devient un sport, la chute libre et le parachutisme est devenu plus un sport à partir des années 90, fin des années 80, début des années 90. Donc ça, c'est pour la première, une des parties extraterriennes. Et donc l'autre partie extraterrienne, donc c'est cette partie de l'exposition, où là, j'avais commencé aussi à m'intéresser au pendule de radiesthésie. Donc j'en suis venu à m'intéresser au pendule parce que donc j'ai une amie qui a fait un documentaire sur des vignerons dans la vallée de la Loire. Donc notamment, il y a un de ces producteurs qui utilise le pendule pour prendre des décisions, à partir de quel moment il faudra faire les vendanges, ou est-ce que le vin est suffisamment évolué pour pouvoir être mis en bouteille, pour choisir un peu loin quelle date seront faites les vendanges. Donc j'avais regardé ça, ça m'avait intrigué. Donc un peu comme pour les agroglyphes, tout le monde de l'ufologie, donc je suis allé un peu étudier la radiesthésie, en allant chercher des livres, apprenant la radiesthésie en 10 leçons. Ce qui me surprend toujours dans ces milieux-là, c'est qu'il y a toujours une production de formes qui pourrait être un peu une génération spontanée de production de formes spontanées, donc comme ces cartes de radiesthésie qui sont utilisées avec le pendule et qui permettent un peu de... Donc celle-ci, c'est plus utilisé en radiesthésie pour les recherches médicales, donc pour chercher un pourcentage, donc soit de présence d'un produit, pour le degré. Et puis il y a un autre dessin qui est ici, qui est emballé. que j'aime beaucoup, puisque ça pourrait être un peu une sorte de... Et je trouve que c'est une image, enfin c'est un dessin assez complet, enfin c'est ni une image ni un texte, puisqu'on a une sorte de... On a une cible, quelque chose pour ressembler à une cible, avec un alphabet écrit en périphérie de cette cible. Et donc en bas, il y a une case photo, donc c'est écrit photo, et à l'intérieur de cette cible, donc il y a différentes cases également, avec non, oui, question, et puis ensuite donc une numérotation de 1 à 0, enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et donc ça, c'est une carte qui peut être utilisée en radiesthésie, c'est-à-dire que, par exemple, si on recherche quelqu'un qui a disparu, on met sa photo dans la case photo, et puis ensuite, avec le pendule qu'on dispose au-dessus, le pendule va nous indiquer, va nous donner peut-être les lettres du lieu où se trouve cette personne. Ou si on se pose une question, par exemple, on peut répondre par oui ou par non, et le pendule, en se déplaçant sur oui ou sur non, va répondre à la question qu'on s'est posée. Et voilà. Donc ça, c'est une image que j'aime beaucoup, pour moi ça me semble assez complète, une sorte de porte comme ça, avec un ensemble de possibilités assez conséquentes. Hein. Et voilà, j'aime bien les multiples entrées qu'il peut y avoir dans un dessin.
Et c'est des choses que tu as expérimentées?
Ouais, comme à chaque fois, quand je me suis intéressé au parachutisme, je me suis inscrit, je suis monté dans l'avion, j'ai sauté, et pareil, quand un sujet m'intéresse autant que possible, j'essaye d'aller personnellement et physiquement me mettre en situation. Et oui, donc j'ai fait l'acquisition d'un pendule, je suis allé en librairie spécialisée, voilà. Donc j'ai choisi mon pendule et j'ai expérimenté. Donc il y avait une vidéo ici qui présentait un peu une expérimentation que j'ai faite en pendule, savoir. Voilà. Parce que l'utilisation des pendules, c'est avant tout exploiter l'énergie qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Et donc j'ai essayé, bon après ça n'a pas été très concluant. J'avais pas réellement de questions à poser, mais... Mais quoi qu'il en soit, j'ai essayé. Ce qui m'intéressait, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment que des milieux comme ça, assez spécialisés, puissent produire des formes, et il y a une multitude de formes de pendules qui existent. Donc ici, j'ai reconstitué, j'ai agrandi à échelle un peu plus culturelle un pendule de radiesthésie, donc qui peut être une superposition de cloches. Donc là, c'est en inox. Donc là, ça va être le pendule du lieu, en fait, donc qui va réagir un peu à l'énergie qu'il peut y avoir dans le lieu. Donc, qui est un objet en suspension. Donc ça, c'est un pendule qui, théoriquement, est plus émetteur d'ondes. Donc il y a des pendules qui sont récepteurs, d'autres qui sont plus émetteurs. Donc celui-ci est un pendule émetteur d'ondes. À côté des dessins de radiesthésie, je présentais des monochromes fluo, donc qui eux ont vraiment une énergie interne qui est celle des couleurs fluorescentes. Et les couleurs fluorescentes sont celles qui évoluent sur un spectre chromatique, enfin le fait qu'ils absorbent tous les autres rayons chromatique pour les concentrer sur une seule et même couleur. Donc là, il y avait deux tableaux fluo qui sont extrêmement vifs en journée, en lumière du jour. Donc il y a un rouge orangé fluo et puis à côté un jaune fluo. Et donc ce qui est curieux, c'est que dès qu'on passe en lumière artificielle, les tableaux perdent complètement leur énergie.
Voilà. Ils sont aussi les fonds que tu as utilisés pour...
ce sont les fonds que j'ai utilisés pour les dessins. Donc les dessins sont réalisés, c'est une technique que j'utilise le plus souvent pour réaliser mes dessins, c'est-à-dire plutôt que de tracer ou dessiner quelque chose, je procède par soustraction, par enlèvement, et je travaille au marteau et à l'emporte-pièce pour faire des dessins. Donc ce sont des perforations donc qui font apparaître le fond du cadre. Donc c'est la même technique qui était utilisée pour les agroglyphes, donc les dessins des crop circles, puisque donc, pareil, j'ai perforé le papier pour enlever, pour enlever le papier plutôt que de rajouter des, de la matière. Et ça aussi, c'était une technique, c'est la même technique utilisée pour faire des agroglyphes, puisque ce sont des blés qui sont aplatis. Donc, c'est des dessins qui sont réalisés aussi. Voilà, plutôt en enlevant de la matière plutôt qu'à rajouter. Tableau éponyme de l'exposition, The Rule of Cool, sauf qu'il a une chose particulière, c'est qu'il a le dispositif.
Il a ce dispositif
électrique à l'intérieur, donc quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment, notamment sur la tour Montparnasse, ils ont mis un peu ces technologies, et c'est des choses qu'on voit dans l'urbanisme. Là, il y a une place dans le 13e arrondissement où ils ont fait toute une rénovation de cette place en incluant ces lumières qui changent de couleur. Il y a également le siège social des chocolats Jeff de Bruges, là sur l'autoroute A4, qu'on peut voir quand on passe la nuit à côté, ça change de couleur toutes les 5 minutes. Donc c'est quelque chose. Ça me fait beaucoup rire parce que c'est déjà ringard avant même que ce soit mis en place comme ça.
C'est aussi un système de luminothérapie. Hein.
Ah ouais, ouais. Ouais, c'est des ampoules qui changent de couleur.
Ouais.
Cool,
ouais. Et
alors le petit tableau là, oui, c'est l'arrêté municipal. Donc ici il y avait la vidéo qui était vidéo projetée, et à côté il y avait l'arrêté municipal. Donc là, c'est une copie de l'arrêté municipal de Châteauneuf-du-Pape. Donc il y a le blason de la ville avec mairie de Châteauneuf-du-Pape. Donc voilà, c'est écrit « Nous, jeune Lucien, maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape, vu la loi du 5 avril 1884, arrêtons, article 1er, le survol, l'atterrissage et le décollage d'aéronefs, dits soucoupes volantes ou cigares volants de quelque nationalité qu'ils soient, sont interdits sur le territoire de la commune de Châteauneuf-du-Pape. Article 2, tout aéronef, dits soucoupes volantes ou cigares volants qui atterrira sur le territoire de la commune sera immédiatement mis en fourrière. Article 3, le garde champêtre et garde particulier sont chargés, chacun ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. Châteauneuf-du-Pape, le 25 octobre 1954, le maire. Voilà, avec le tampon, la ville.
Est-ce que tu en as discuté avec l'actuel maire de Châteauneuf-du-Pape?
Alors non, l'actuel maire, non. Par contre, j'ai rencontré le fils de Lucien Jeune, qui est donc son fils et producteur de Châteauneuf-du-Pape, donc qui est un vin de la vallée du Rhône, donc qui est produit près d'Avignon. Et donc j'ai rencontré son fils et voilà, nous en avons parlé un peu.
Qu'est-ce qui est sorti de votre discussion?
Qu'est-ce qu'il en a sorti? 1954, ça a été une année où il y a eu énormément d'observations d'objets volants, mais pas uniquement dans la vallée du Rhône, c'était assez général. Donc autant dans le nord-est, nord-ouest, sud, enfin vraiment comme ça, une sorte d'observation extrêmement importante. Et donc il semblerait que le maire ait pris cette décision à cette époque-là, puisque là c'était en octobre 1954. Donc voilà, pour mieux vous prévenir, on ne sait jamais. Donc il a pris cette décision donc, de faire voter cet arrêté municipal. Ce qui ressort, c'est que, quoi qu'il en soit, ils n'ont jamais ni vu de soucoupe survoler ou atterrir sur le territoire du village.
C'est que les gardes chasse travaillent bien, quoi. Ouais.
Voilà, et puis là, on arrive à l'entrée de l'exposition où il y avait les... Donc là, il y avait les costumes de la confrérie spécifique Cheese.
Est-ce que tu peux nous rappeler
Donc Specific Cheese, c'est un travail que je mène depuis 2010, et c'est parti d'un constat de rapprochement formel entre les formes de l'art minimal, donc qui sont beaucoup utilisés, comme le cercle, le carré, la pyramide, et les formes des fromages, qui se résument également à trois formes, le carré, le rond et le triangle. Donc c'est parti de ce constat-là, et puis après, donc, j'ai fait un peu des recherches, et on me suis rendu compte que le mot forme et le mot fromage avaient la même étymologie. Ensuite que c'était une erreur de langage de dire fromage puisqu'on devrait dire formage, donc un formage c'est quelque chose qui fait dans une forme, et la forme étant le moule, et donc j'ai fait pas mal de recherches, voilà, sur l'histoire des formes géométriques, l'histoire des mathématiques, l'histoire de l'art minimal, donc tout au long du XXe siècle, donc d'une part, et puis donc ça donnait lieu à une conférence que j'ai donnée au FRAC Alsace en 2011. Et après cette conférence, j'ai réalisé des moules à fromage à partir de dessins de Sol Lewitt, donc qui sont les 12 forms derived from a cube, donc 12 formes dérivées d'un cube. Et avec ces moules, donc j'ai pu travailler la première fois avec un producteur de Chavignol dans le cadre d'une exposition avec le Parc Saint-Léger. Donc on a réalisé des premiers crottins de Chavignol à partir des moules de Sol Lewitt. Et l'année suivante, j'ai réalisé les costumes de cette confrérie. Et ça, c'était un peu pour m'appuyer sur une tradition gastronomique et pour que chaque production gastronomique ait une confrérie, c'est-à-dire un regroupement de personnes qui représentent. Donc il y a la confrérie de la fraise de Plougastel, ou la confrérie de la boulette d'Avennes, ou la confrérie
du cassoulet.
Du cassoulet. Et voilà, donc j'ai réalisé cette confrérie. Donc les costumes sont des costumes en feutre blanc, donc un peu à la Beuys, comme ça, un truc un peu tissu assez épais. Et puis donc dans le dos, il y a le nom de la confrérie, donc Specific Cheese, qui est inscrit en, avec des lettres de feutre, donc en volume. Donc là, on est un peu dans la... c'est un peu l'association entre du Beuys et des clubs de Hells Angels, avec des colliers de francs-maçons. Voilà, c'est un peu un assemblage, une association de différents éléments. Donc pour cette confrérie, et la confrérie regroupe différentes personnes, des personnes qui me connaissent depuis pas mal de temps, qui suivent mon travail, ou avec qui je discute fréquemment de mes projets. Donc il y a tout autant des artistes, des critiques d'art, des curateurs, mais également des philosophes des sciences, banquiers, voilà, ce regroupement.
Je crois que c'est une spécificité des confréries de ne pas être faite que de personnes de son propre milieu.
C'est vrai ?
Je crois. Sinon, c'est plus une corporation, je crois. Je crois que c'est une petite différence. Il fait son petit intérêt, quand
même. Eh oui. Ouais, entre confrères... Mais pourtant, ouais, quand on dit entre confrères, dans un milieu professionnel, dans le monde de la médecine, par exemple.
C'est à regarder, mais je crois qu'il y a une petite différence. Mmh. De l'ouvrir à des scientifiques, là, dans ton cas.
Ouais. Enfin, confrères et consoeurs. Il y a une parité au sein de la confrérie.
Et il se passe quoi pendant vos petites réunions ?
Alors donc, ce qui se passe, c'est que quand je travaille avec un fromager, qu'on réalise des fromages à partir des moules, donc une fois que les fromages sont produits, moi j'en garde une archive photographique, et ensuite donc les fromages sont consommés en public, c'est-à-dire qu'on organise une cérémonie, donc il y a la nomination de nouveaux confrères, donc avec remise de cape, du chapeau, parce qu'il y a des chapeaux aussi qui reprennent les formes des fromages et des moules. Et donc ensuite, les fromages sont consommés, sont offerts au public et consommés. Et la cérémonie est terminée, une fois que tout est.
Et tu l'archives comment, en fait ? Tu écris des textes, ou les gens écrivent des textes, ou
Pour Specific Cheese, j'ai beaucoup de photographies des chapitres qui ont pu avoir lieu. Donc la conférence, donc c'est une conférence documentée, c'est-à-dire je présente des documents ou des références Voilà, pour expliquer un peu le cheminement du projet. Et puis les photos des fromages, elles sont toutes emprises sous le même protocole. Donc là, c'est plus une forme minimale d'un protocole répété. Donc observer. Et voilà, ça amène toujours des discours, des discussions assez intéressantes avec les fromagers qui découvrent des nouvelles formes. Ils disent, mince, comment ça se fait? On n'a jamais pensé à faire des fromages qui n'étaient ni ronds, ni carrés, ni triangles. Et voilà, et le prochain la chapitre, ce serait au mois de juillet, au musée Matisse, et on va faire un partenariat avec la confrérie de la boulette d'Avène, voilà, qui est un des fromages... assez informe pour le coup. Ouais. Donc ça sera en juillet prochain.
Peut-être que pour terminer,
ouais.
Tu pourrais nous dire ta journée de mercredi quand tu auras fini ces journées de montage. Comment tu vas passer ta journée, comment tu fais une journée de travail ou comment,
mercredi.
Qu'est-ce que tu prévois
mercredi, c'est le retour des œuvres du centre d'art chez moi. Et jeudi, journée de travail. Qu'est-ce que je fais en ce moment? En ce moment, je prépare une exposition qui aura lieu au mois de mai dans un centre de recherche en viticulture qui se trouve dans le Gers, et qui se trouve dans un château du XIIIe siècle qui s'appelle le château de Mons. Et c'est une région où ils produisent de l'armagnac. Donc c'est une chose que je connais très peu, et le Gers, c'est une région que je connais très peu également. Donc voilà, donc là, je commence à travailler sur cette exposition. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ça va être des nouvelles choses. Alors je ne sais pas si je vais travailler autour de l'armagnac. Mais parce que c'est déjà une chose qui existe en soi. Après, le côté centre d'expérimentation, ça me plaît pas mal, qu'il y ait un peu cette étiquette sur ce lieu, et le château qui est un château du XIIIe siècle. Voilà, qui serait le château du valet de carreau. Au jeu de cartes, il y a le valet de carreau, et c'était son château. Voilà. Donc voilà, je suis un peu en train de regarder un peu dans ces différentes directions. Donc, je suis allé visiter le musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux. Très belle collection de cartes à jouer. Voilà ce que je vais faire jeudi.
Très bien. Eh bien, bon jeudi.
Merci.
Et merci.
Merci.